Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline.
Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, 85% des institutions publiques, ça c'est les écoles, les hôpitaux, etc., ont une cible d'achat d'aliments québécois. On en parle avec le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne. Ensuite, à gauche, il n'y a pas que Québec solidaire, il y a aussi le nouveau Parti démocratique du Québec qui est en redémarrage et on en parle avec son chef, Raphaël Fortin. Mais d'abord, c'est l'heure de rencontrer un ami de notre bureau parlementaire.
Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important.
Et bonjour Patrick Bellerose.
Bonjour Antoine.
Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Tu racontais ce matin dans le journal que tu as dû attendre 2h30 au téléphone pour obtenir un rendez-vous avec le médecin du guichet d'accès à la première ligne, le fameux GAP. C'était bien intéressant, puis ça a eu des échos à l'Assemblée nationale aujourd'hui.
Écoute, en fait, j'ai eu un petit souci de santé, rien de très grave, et je me suis dit que j'allais en profiter pour tester, comme tu dis, le fameux GAP, le fameux guichet d'accès à la première ligne sur lequel j'ai écrit plusieurs fois. Et c'était tellement long que finalement, j'ai eu le temps d'écrire un texte pendant que j'attendais. Puis je me suis dit, écoute, au moins, mon avant-midi aurait servi à quelque chose. Donc, j'ai envoyé ça à mon patron, puis on a publié ce matin. Écoute, 2h30, je pensais vraiment pas, je pense que ça aurait été moins long de me présenter sur place. Donc, ça m'a permis de comprendre comment ça fonctionne quand on veut passer par le GAP. C'est quelque chose, je te dirais. J'ai attendu 1h20 sur une... J'appelle ça une douce musique aliénante, une petite musique doucereuse on s'entend soi-même maugréer et dire des mots d'église avec une toute petite musique douce, puis on se dit « Hey, motadine, me semble que j'aurais autre chose à faire, puis que c'est pas si compliqué dans la vie. »
C'est un
prendre
supplice.
Rendez-vous.
Ben oui.
Antoine, ce que je dis souvent, c'est que quand j'appelle chez le dentiste, chez le chiro, chez le physio, ben ça répond, puis c'est pas long. Puis j'ai un rendez-vous dans les jours qui viennent.
Chez le vétérinaire aussi, pour nos animaux domestiques.
Donc, 1h20, et là, ça répond. Je me dis, doux Seigneur Jésus, enfin, je vais avoir quelqu'un qui va m'aider, je vais pouvoir avoir un rendez-vous. Eh bien non, c'est une préposée qui me dit, on va mettre à jour votre dossier pour le guichet d'accès à un médecin de famille. Ça, c'est un autre guichet. Donc, pour l'auditeur, j'explique. On peut s'inscrire pour avoir un jour éventuellement un médecin de famille à temps plein. Et si on n'en a pas, comme moi, mais là, on passe par le GAP pour avoir un rendez-vous ponctuel avec un médecin. Donc, la dame me dit, on va mettre à jour votre dossier. Je me dis, écoutez, c'est très bien, pourquoi pas, commençons par ça. Et donc, nom, adresse, nom de la pharmacie la plus proche. Je me dis, enfin, Antoine, je vais avoir un rendez-vous. Non, on vous remet en attente pour parler à une infirmière.
C'est pas vrai.
Ça va être 45 minutes, monsieur.
C'est épouvantable.
Écoute. Alors, donc, j'attends encore 45 minutes en naviguant sur Internet, en faisant passer le temps. Et là, finalement, je parle à une infirmière. Ça fait 1h45 environ, même plus que ça. Ça fait 2 heures que je suis en attente. Et là, donc, on couvre les petits soucis, tout ça. Elle me dit, écoutez, oui, on va vous envoyer voir un médecin parce que, c'est toi bien, Antoine, elle aurait pu décider que moi, je vois pas un médecin.
Ah non?
Que moi, je vais voir une EPS ou que je vais voir un autre type de professionnel. Je comprends, c'est bien. Déléguer, c'est très bien. Que les différents professionnels puissent avoir... qu'on puisse avoir accès aux différents professionnels, c'est bien. Mais je n'avais pas le choix. On m'a dit, c'est nous qui allons décider. Et donc là, je me dis, c'est réglé? Non, pas encore. Tu veux prendre un rendez-vous? Il faut attendre à nouveau.
Ah.
Et là, j'attends encore 15-20 minutes, 2h30 au total. Et là, finalement, on me donne un rendez-vous.
Tu l'as eu?
Oui, on me donne un rendez-vous. Et, écoute, j'étais pas au bout de mes surprises. On me dit, le rendez-vous est pour le 5 juin. C'est très rapide, c'est bien, j'ai rien à dire là-dessus. Par contre, moi, c'est pas un souci de santé qui est très important. C'est rien de pressant, je veux juste comme régler ça un jour. Et donc, j'ai dit, écoutez, Le travail va être très intense à la fin de la session parlementaire. Je pars en vacances par la suite. Tout l'été, là, je suis disponible pour le restant de l'été. Bookez-moi rendez-vous n'importe quand dans l'été. Vous allez devoir rappeler, monsieur, parce que les plages horaires qu'on a, c'est juste pour les deux prochaines semaines.
Oh non!
On a trouvé une solution, finalement. C'est pas grave, mais juste pour te dire, c'était compliqué en motadine. Et quand j'ai dit à la dame, écoutez, je vais quand même pas rappeler et faire 2 heures et demie d'attente pour avoir un nouveau rendez-vous, elle me dit, ah, ben, vous êtes pas chanceux. En général, c'est 1 heure.
OK, c'est juste 1 heure.
C'est juste 1 heure en général.
En tout cas, ça a eu des échos, comme je disais tantôt, à l'Assemblée nationale. On peut écouter le ministre de la Santé lui-même, Christian Dubé, qui a commenté ton cas, mais en te lançant des fleurs quand même.
Et malheureusement, effectivement, un journaliste que je respecte beaucoup a attendu malheureusement 2 heures et demie. Mais je voudrais mettre en contexte, il se fait 30 000 appels par semaine au guichet d'accès. Ça, c'est comparé à 0 il y a 1 an. Les gens n'avaient pas d'endroit pour appeler quand il n'y avait pas un médecin. Ces temps-ci, il se fait 30 000 appels. Savez-vous c'est quoi la moyenne de temps d'attente? 30 minutes. Ça veut dire qu'en ce moment, la moyenne des Québécois attend 30 minutes pour être capable de prendre un rendez-vous. Ils sont capables de rencontrer un médecin ou un professionnel. Okay.
Donc, le ministre nous disait que ça s'améliore malgré ta mésaventure?
Écoute, de façon générale, on dit que le temps d'attente est d'environ 30 minutes.
Oui.
Le temps moyen. Par contre, tu sais comme moi, pour faire une moyenne, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont au-dessus, certains en dessous. Donc, 30 minutes, c'est le temps d'attente moyen. Je te laisse décider si tu considères que c'est un temps d'attente qui est raisonnable, mais ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de gens qui attendent plus longtemps que ça.
Ouais.
Un peu dans l'échange qu'on a entendu par la suite, M. Fortin, André Fortin, le député libéral, a fait ressortir différents cas qui se passent chez lui en Outaouais. Et on sait que l'Outaouais est souvent mal desservi en question de réseau de santé. Écoute ça, tu croiras pas à ça. Il y a une dame qui a appelé au GAP. On lui a dit... En fait... On l'a rappelé au bout de, je crois, 3 jours. Et on lui a dit, ça va prendre quelques jours, pas pour avoir un rendez-vous, pour parler à l'infirmière qui, elle, éventuellement, va vous donner un rendez-vous. Mais par la suite, André Fortin a amené un autre cas qui, moi, me dépasse. Des gens qui appellent au 911 dans sa région.
Mon
Dieu. Si c'est pas urgent,
ouais,
sont transférés au 811. Donc, c'est le GAP dont on parle. Et ils sont même pas certains d'avoir... un rendez-vous. Il y a même une dame, une lectrice qui m'a écrit, puisque j'ai reçu plusieurs commentaires aujourd'hui.
Ah ben oui, c'est vrai.
Et c'était vraiment... C'est intéressant parce que ça illustre bien le problème. La dame a dit, écoutez, moi j'ai été... ça a pris 3 semaines avant d'avoir un retour d'appel. Elle dit, tu sais, veut dire, attendre à l'urgence près de chez nous, là, c'est 24 heures. Fait que tant qu'à ça, je vais attendre à l'urgence.
Oh. Bon, ça porte un bon livre. Ah, c'est décourageant.
Bon. Écoute, c'est une solution qui n'est pas parfaite. Comme M. Dubé l'a dit ce matin, l'an passé, il n'y avait rien. Maintenant, il y a quelque chose. Le GAP reçoit 30 000 appels par semaine. Donc, c'est une solution qui est en train d'être mise en place, qui est en train d'être améliorée. Il y a une pénurie aussi de main-d'œuvre.
Ben oui.
On ne peut pas non plus créer des infirmières non. comme ça en claquant des doigts.
Ça serait bien
de
pouvoir en cloner.
Donc, ça s'améliore. C'est ce que M. Dubé nous dit. C'est une solution qui vient régler un problème. Pour l'instant, c'est loin d'être parfait.
En tout cas, merci beaucoup de ton témoignage, cher Patrick. Puis, tu es toujours bienvenu ici. Puis, tu n'as pas à attendre à la porte.
C'est très gentil.
Je rappelle que Patrick Bellerose est correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Et comme l'a bien dit Christian Dubé...
Un journaliste que je respecte beaucoup...
Antoine Robitaille, le véritable troisième lien. Le Salon Bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
À gauche, il n'y a pas que Québec solidaire. Le nouveau Parti démocratique du Québec, qui a connu différentes incarnations depuis 40 ans, est actuellement en redémarrage et son chef est avec nous. Bonjour, Raphaël Fortin.
Bonjour, Monsieur Robitaille.
Le nouveau Parti démocratique du Québec ou le NPD Québec, comment vous l'appelez, votre parti?
Nouveau Parti démocratique du Québec ou NPDQ. Pas NPD Québec parce que le NPD fédéral a une section Québec, étant donné que pour dans leurs instances, quand il y a un congrès, ils ont dû créer, parce qu'on est la seule province dont les partis provinciaux ne sont pas affiliés avec les partis fédéraux. Donc,
Et vous n'êtes pas une succursale? Vous n'êtes pas une succursale?
Pas du tout. Non, du tout. Bien sûr, il y a des gens qui ont... Moi-même, je suis un ancien à l'époque, candidat du NPD, Mais il n'y a pas que des gens du NPD qui sont devenus membres ou qui avaient milité ou qui étaient candidats pour nous en 2018. Là.
Il y a aussi Raymond Côté qui est impliqué, qui est un ancien de la vague orange de 2011 au NPD.
Effectivement. Dans le fond, quand on a fondé de nouveau officiellement, parce que le nom a été enregistré en 2014, puis tout le monde dit tout le temps que c'était fondé en 2014, mais le nom avait été réservé en 2014, mais la vraie fondation est arrivée en avril 2017. Quand il y a eu la course à chefferie, Raymond et moi, on s'est présentés l'un contre l'autre. Mais c'est ça, il est resté. Puis il est présentement président par intérim du parti.
Pourquoi ne pas avoir présenté de candidat en 2022? Parce que vous en avez eu quelques-uns en 2018.
Oui, on avait quand même, de mémoire, 58 en 2018.
Ouais.
Enfin, il y a eu la COVID, comme tout le monde le sait. Et donc, l'espace pour pouvoir essayer de poursuivre sur le développement qu'on avait eu en 2018 avec le beau lancement, parce que dans le fond, j'ai été élu en janvier 2018, puis on a eu une campagne, somme toute, avec une belle résonance pour une première campagne, puis le budget qu'on avait. Vous savez très bien que le financement des partis politiques, une première élection se fait avec un budget extrêmement limité.
Ouais.
Et donc, on voulait poursuivre, arrive la pandémie, ben on était pas mal breakés, hein. On pouvait juste être par Zoom entre nous autres à jaser. Puis ben il y a des gens qui ont vécu des choses difficiles, fait qu'on a perdu des militants qui ont eu besoin de s'occuper d'eux-mêmes dans cette période-là. Puis on avait zéro espace pour parler d'idées, c'est-à-dire avoir une résonance. Déjà, les partis en place comme le PQ, le Parti libéral, PQS, faisaient figure pratiquement réserviste tout l'espace médiatique qui était occupé par le gouvernement.
Mais en même temps, si vous aviez présenté des candidats, vous auriez recueilli un peu plus de financement, non?
Bien, on est d'accord qu'une campagne coûte très cher. Recueillir des candidats sous la base de, après deux ans et demi, on ne s'est pas parlé.
Ouais.
C'était quoi l'argumentaire?
Okay.
Pour les aides? Viens candidat pour nous, on veut ramasser de l'argent. Et on a fait le calcul réfléchi de dire si on veut voir le NPDQ à long terme, on va pas garocher notre argent juste pour être présent. On est mieux de se regrouper, faire un pas de recul pour mieux avancer.
Et qu'est-ce que c'est que le nouveau Parti démocratique du Québec? Qu'est-ce que ça amène par rapport à Québec solidaire, par exemple, qui est à gauche?
Bien, je vous dirais que si vous preniez la CAQ, on serait l'équivalent, mais sur le spectre plutôt à gauche, dans le sens que, comme je disais, c'est un parti de gauche non souverainiste, mais nationaliste, et surtout qui était plutôt dans le pragmatisme des idées, c'est-à-dire la gauche historique qui défend une forme de les travailleurs, l'égalité homme-femme, qui était aussi dans, je vous dirais, de nature assez nationaliste, c'est-à-dire la défense du fait français, l'importance du fait français.
Mmh.
Pour moi, c'était essentiel et je me suis toujours appliqué dans mes écrits ou dans ma façon de m'exprimer, à utiliser le meilleur français possible, parce que je pense que avant de faire la promotion du français, il faut toujours bien se l'appliquer à soi, tout ce que je fais avec mes élèves.
Oui, parce que vous êtes enseignant en histoire au secondaire, hein?
Effectivement, cette année, j'avais des secondaires 4, l'année passée, j'avais des secondaires 3. Histoire du Québec et du Canada, disons que c'est la matière que je favorise le plus. Et donc, je prends énormément de plaisir à raconter notre histoire nationale, les luttes, les gains et surtout les luttes à faire encore pour garder cette langue-là malgré l'univers anglo-saxon dans lequel nous sommes entourés. Et disons, les forces en présence qui
donc c'est
ouais. À ajuster les choses, mettons.
C'est le souverainisme de Québec solidaire, même s'il n'est pas très affirmé entre vous et moi, là, qui vous empêche d'adhérer à Québec solidaire, c'est ça?
Non, c'est plutôt que le Québec solidaire d'aujourd'hui n'a plus rien à voir au Québec solidaire que à l'origine, qui était sur la laïcité, qui était sur l'égalité homme-femme du temps de Françoise David et de Mercadé.
Ah oui.
Puis on va se le dire, moi, je suis capable. Moi, je viens historiquement, ma famille est du milieu souverainiste, fait que je suis plutôt porté sur le nationalisme. Alors que QS, bien qu'il se dise souverainiste, on peut dire qu'à Québec, qui ont avalé Option nationale, c'est un QS plus souverainiste. Mais à Montréal, pour connaître plusieurs des militants, c'est extrêmement fédéraliste. Ça n'a rien à voir avec un parti souverainiste. Et puis c'est d'ailleurs pour ceux qui ont pas pu et qui ont fait un croc en jambe à l'époque, Jean-François Lisée, quand c'était intéressant d'unir les forces souverainistes. Je veux dire, ils ne sont pas de vrais souverainistes, bien que Gabriel Nadeau-Dubois aime dire qu'il ne voit pas de fédéralistes. Moi, j'en connais plusieurs dans ce parti-là Ils sont zéro souverainistes.
Mais pourquoi ils ne sont pas chez vous?
Je pense que le véhicule qui était le plus connu et le plus à gauche à Montréal,
ouais.
C'est très implanté à Montréal. Quand j'ai fait la course à la chefferie contre Raymond Côté, il y avait émis une hypothèse qu'à l'époque, j'avais trouvé sur le coup plutôt saugrenu, mais avec réflexion, le plus proche, on a plus l'électorat de la CAQ qui s'intéresse à nous que l'électorat de QS.
Eh bien.
Ouais, parce que l'électorat de la CAQ est essentiellement un électorat qui est plutôt porté sur, si on parle de la nation du Québec, qui sont pragmatiques, pas nécessairement des gens de droite. Évidemment, les représentants de la CAQ sont plutôt au centre-droit.
Et là, je dis oui.
L'électorat comme tel, de banlieue et de région, serait capable de se reconnaître en nous. La problématique de la gauche, et que j'ai souvent émis, c'est que la gauche a tendance à parler aux grandes villes et pas aux régions. Et quand on parle d'exemple, moi j'ai un véhicule électrique, mais quand on dénonce le véhicule, mais la réalité, c'est que le transport en commun et collectif ne se rend pas partout. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui vit dans un endroit où il n'y a aucun transport collectif, quand même qu'on fasse des promesses de milliards de transports en commun, il se sent pas interpellé. On... Et souvent, il se sent même jugé dans
ben oui. Véhicule. En terminant, M. Fortin, votre parti, j'allais dire frère, mais en tout cas, celui qui a le même nom fédéral, là, vous devez le trouver... pas correct. Vous ne devez pas voter au fédéral pour le...
Différemment du temps que...
Mais votez-vous pour le NPD fédéral? Comme Ruba Gazal, mettons?
je vais me contenter de dire, parce que publiquement, je ne vais pas dire pour qui je vote, mais je vais contenter de dire que le NPD n'est plus le NPD du temps de Jack Layton et de Thomas Mulcair pour lesquels j'ai milité et pourquoi je me suis joint au NPD. Je pense que les choix de bataille ont énormément évolué sous Jack McSween. Il y a ses choix, je les respecte. Je ne partage pas nécessairement la même vision qu'il porte sur le Québec et sur les Québécois, entre autres sur des enjeux fondamentaux, à mon avis. Mais vous savez, une des raisons pourquoi je voulais vous parler, c'est parce qu'on parle actuellement, normalement, le sujet de l'heure, c'est évidemment la défense du fait français.
Oui.
La loi 101 qui n'est pas appliquée pour que le PQ voudrait que soit appliquée dans les écoles postsecondaires. Pour voir, tu sais, moi, quand j'ai vu la pub du Faucon Pèlerin, ça m'a interpellé parce que c'est comme ça que les jeunes parlent. Et je leur ai parlé, je leur ai présenté et je leur ai demandé qui sera en mesure d'utiliser les bons mots plutôt que vos expressions. Et peu étaient capables de lever la main. Et ça m'a interpellé parce que qu'est-ce qui fait que le Québec est différent du reste du Canada? C'est notre langue. Qu'est-ce qui fait qu'on aime penser une réflexion différente sur plusieurs des enjeux? C'est la structure de notre langue, notre pensée. C'est ce qui nous différencie. Et on parle tout le temps d'inclusivité, de diversité. Mais quand on parle de langue française, on dirait que c'est négatif de parler de défendre cette diversité-là, qui est la minorité francophone du Canada, et surtout la seule nation à majorité francophone, et dont la loi dit que la langue officielle, c'est le français.
Malheureusement, il faut qu'on se laisse ici. C'est tout le temps qu'on avait, M. Fortin, mais on va sûrement se reparler, d'autant plus que l'autre partie de gauche me boycotte à cause de son boycott de Cube. Et ça me fâche. Donc, on va vous donner plus d'espace. Ça va me faire plaisir. Alors, à très, très bientôt. Je rappelle que Raphaël Fortin est chef du nouveau Parti démocratique du Québec.
Antoine Robitaille. Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot. Mais il aime mieux animer son émission.
Habituellement, avec le ministre de l'Agriculture, on fait des jeudis agricoles. Mais là, c'est un mercredi agricole. Bonjour, André Lamontagne.
Bonjour, Antoine.
Oui. Vous avez fait une annonce hier sur la stratégie nationale d'achat d'aliments québécois dans les institutions publiques. On en avait déjà parlé. Puis, au fond, on n'achetait pas local dans nos institutions publiques. Vous avez mis une stratégie en place, puis vous dites que ça progresse.
Oui, tout à fait. Marité, effectivement, là, il n'y avait pas de mouvement concerté au sein de toutes les institutions, les organismes qui peuvent être de dépendance du gouvernement envers l'achat local. Puis, il faut comprendre que c'est complexe. Il y en a des milliers d'institutions. Là,
oui.
C'est pas comme un gros bouton qu'on presse, puis à go, toutes les institutions se mettent à acheter québécois. Là. C'est presque des décisions d'achat presque par établissement. Alors, ça a été complexe. Puis, on a lancé ça en 2020, à l'automne. Puis deux ans et demi plus tard, là, on a rencontré nos objectifs en termes de pénétration, en termes de cible, mais c'est surtout la
mobilisation. C'était quoi les objectifs, en gros?
Bien, en réalité, on s'était donné comme objectif qu'après une année, ce serait 45 % des institutions ciblées qui auraient des cibles, ceux-là qu'on travaillait au corps, si on veut. Là.
Mm-hmm.
Puis qu'après deux ans, au 31 mars là, 2023, que ce serait 85 %. Bon, au 31 mars 2023, on était à 84,86
%. OK.
Alors, on est très, très heureux, mais en
arrière... Donc, on parle des hôpitaux, des...
Oui, on parle des... Dans ce cas-ci, on parle de primaire, secondaire... Non, on parle de le premier groupe qu'on a visé. C'est services santé, services santé puis sociaux, enseignement supérieur et puis éducation primaire, secondaire. Puis ça, ensemble, ces trois réseaux-là comptent pour à peu près 75 % des achats, mais un peu moins que 50 % de toutes les organismes, si on veut. Là.
OK. OK. Puis là, donc, il y a une mobilisation,
ouais,
vous dites?
Oui, ouais, parce que la stratégie, elle se décline de trois ou quatre façons. Il y a une première façon, c'est qu'avec l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, on a créé ce qu'on appelle des conseillers en approvisionnement locaux. On a vraiment une escouade qui contacte un à un les hôpitaux là, pour parler aux gens qui sont responsables des achats, faire un diagnostic, s'entendre aussi sur des gestes qu'ils vont poser. Après ça, on a une organisation aussi qui s'appelle M361, qui est Québec en forme.
Okay.
M361, eux autres, ils font ce travail-là avec les écoles secondaires principalement. Puis après ça, on a aussi un partenariat avec Aliments du Québec. C'est Aliments du Québec au menu, qui eux autres aussi, de leur côté, font des démarches là, pour avoir l'adoption. Là, de
ça fonctionne parce que souvent, quand il y a beaucoup de partenaires, là, ça tire d'un bord puis de l'autre, puis rien qui se fait.
Non, dans ce cas-ci, honnêtement...
C'est quoi dans la blague? C'est un comité, c'est un cheval dessiné par un... Non, un chameau, c'est un cheval dessiné par un comité.
Dans ce cas-ci, honnêtement, il y a vraiment un travail de définition des objectifs, mais de qui on cible. Mais après ça, les partenaires, ça travaille vraiment en collaboration.
Mais qu'est-ce qui est acheté, au fond? Qu'est-ce qu'on achetait ailleurs qu'on peut acheter ici maintenant? Des pommes de terre? C'est quoi exactement?
Des légumes, n'importe quel produit qui est transformé, manufacturé... des produits surgelés. C'est sûr que le lait, honnêtement, là, ça vient du Québec. On s'entend là-dessus.
Oui.
Le lait fromage, ça devrait venir du Québec. Là.
Oui.
Mais tous les autres produits...
Ça venait déjà acheter, du là. Québec, le lait fromage.
Ben, c'est-à-dire de façon...
Où il y avait du lait diafiltré, là, le fameux lait contrebande américain.
Je dirais non, mais aussi, c'est les... Il y a plusieurs institutions qui sont alimentées par des groupes alimentaires, que ce soit Colabor, que ce soit JFS, des compagnies comme ça, Gordon. Puis ces gens-là, aujourd'hui, ont aussi décidé d'embarquer dans la stratégie, fait que de revoir leur politique d'achat. Puis à travers ça, bon, au gouvernement aussi, on a fait des modifications là, à certaines lois par l'adoption de la loi là, sur l'achat local par ma collègue Sonia Lebel, du Conseil du Trésor. Fait que c'est comme mettre ensemble plusieurs éléments de façon coordonnée là, ben, qui fait en sorte qu'il y a du jus qui va sortir de ça. Là.
OK, mais quel producteur il gagne? Avez-vous des exemples? Des gens qui ne vendaient pas avant ou qui vendaient très peu au secteur public, puis qui maintenant...
Ben, aujourd'hui, je te dirais, je n'ai pas d'exemple à te donner à part. Mettons, moi, dans mon comté, j'ai des entreprises qui font directement affaire avec des CPE, exemple. Là.
OK.
Mais ce que...
Mais ça, c'est pas dans la stratégie, là.
Au moment où on se parle, ils sont pas comptés dans la stratégie.
C'est ça.
Mais hier, vous voyez, hier, on annonçait aussi que tout le club des petits déjeuners se joignait à la stratégie. Ça, c'est 442... clubs dans différentes écoles primaires au Québec. Mais puis hier aussi, ce que j'annonçais, c'est maintenant, on va avoir un outil de quantification. Parce que là, on a des fiches pour chacun des organismes dans lesquels ils ont une cible, ils ont une volonté, on veut acheter plus, on veut offrir plus de plats. Tous nos desserts vont être des desserts québécois, des choses comme ça. Mais là, à partir d'incessamment, c'est un outil qui a été développé par le THQ qui vont permettre aux organisations vraiment de quantifier pour qu'on puisse tracer avoir encore une meilleure compréhension de qu'est-ce qui s'achète, où ça s'achète et tout ça. Fait que c'est vraiment quelque chose là, qui va être en place pour longtemps, là, parce que la mobilisation est vraiment là, là, puis les gens sont emblés. Il y a vraiment une communauté qu'on est en train de construire.
Là. OK. Mais pourquoi ça ne s'est pas fait avant? Il me semble que ça tombe sous le sens.
On aurait demandé à ceux qui étaient là avant. Là.
Ouais.
Ben oui.
Mais vous n'avez pas des hypothèses?
Ben, en réalité, il y a des choses qui ont été lancées. Il y a beaucoup de vœux pieux qui ont été lancés. Mais honnêtement, Antoine, de passer du concept à la réalité, là, c'est vraiment une tâche colossale. Puis hein, j'ai eu du financement pour le faire, mais c'est sans
compter. Ah oui, combien ça a coûté?
Écoutez, on doit être à 10-12 millions. Mais on va vous revenir pour le montant. Là. Mais c'est vraiment le travail colossal. On a des gens là, à la direction d'accès au marché, au MAPAC, là, qui, eux, ça fait des années qu'ils s'intéressent à ça. Mais c'est comme si on a libéré leur potentiel ou on a libéré un peu leur folie, à savoir... On est allé voir ailleurs qu'est-ce qui se faisait, entre autres au Danemark, dans certains, États, aux États-Unis, pour voir les meilleures pratiques. Et puis, on a adapté ça sur notre territoire. Puis, c'est ça, le travail de qualité de ces jeunes-là, de ces gens-là au MAPAC. Mais après ça, l'espèce de communauté qu'on a mis en place, mais les gens adhèrent, puis les gens embarquent vraiment. Là.
Parce que ça fait quelques années quand même qu'on a des stratégies au Québec, comme Aliments Québec, comme quand on va à l'épicerie, avant, il y avait peu d'indications que tel produit était local ou non. Donc, ça, c'est antérieur à vous. Mais donc, on a progressé même ailleurs que dans les institutions publiques.
Oui, tout à fait. Mais Aliments du Québec, c'est un bel exemple. Nous, ça fait partie. Nous, on a vraiment... Moi, j'ai présenté une stratégie pour accroître l'autonomie alimentaire. Il y avait 4 piliers.
Mm-hmm.
Puis le pilier numéro 1, c'est d'augmenter la demande des produits. Bien, c'est par de la promotion, c'est par de l'affichage, c'est par en fédérant sur le territoire différentes initiatives.
Mm-hmm.
Puis notre fer de lance, c'est Aliments du Québec, à laquelle on a triplé à peu près les budgets auxquels on contribue pour Aliments du Québec, qui fait qu'aujourd'hui, on a 25 % plus d'adhérents d'Aliments du Québec. On est rendu à 26 000 produits identifiés à Aliments du Québec. Puis les Nielsen qui sortent, qu'on fait sortir à chaque année, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs...
C'est quoi les Nielsen? C'est les sondages?
Les sondages Nielsen qu'on fait vraiment surveiller un peu tous les produits québécois. Là. Mais encore là, on a des belles nouvelles là, qu'on apprend. Là.
Qu'est-ce qui reste la volonté de la pandémie, qui s'est beaucoup exprimée pendant la pandémie, d'accroître l'autonomie du Québec? Parce qu'on a eu peur, à un moment donné, dans la pandémie, que les chaînes d'approvisionnement soient tellement coupées que...
Mon premier ministre a dit qu'il avait eu bien peur.
Autres, oui, c'est ça.
Ça, là, mais ça allait quand même bien.
Vous n'aviez pas eu peur?
Bien, il y avait des enjeux, mais moi, je suivais ça. J'étais comme dans le cockpit du navire tous les jours.
Ouais.
Je parlais à toutes les filières et tout ça. Fait que quand il y avait des enjeux, là, on pouvait s'en occuper. Là, mais c'est un système... Là, toute la question de la chaîne d'approvisionnement, là, c'est pas mal robuste. Là.
Oui.
Puis okay. Aussi, on produit beaucoup de denrées au Québec. Là.
C'est sûr
qu'on aurait pu se ramasser et avoir un petit peu moins de variété, là, mais on en produit du tonnage au Québec. Là. On est capable de se nourrir longtemps. Là.
Donc, qu'est-ce qui reste de cette volonté d'accroître l'autonomie? Puis vous avez une stratégie? Là, vous avez
ce qui reste, c'est quelque chose qui est très, très dynamique. C'est des investissements qui sont records. C'est davantage d'entreprises qui sont impliquées. C'est des filières à potentiel qu'on a mis encore davantage. Tout le programme des serres. Puis honnêtement, les dernières années, on a des revenus à la ferme qui sont records. On peut dire, oui, il y a eu de l'inflation, là, mais la progression qu'on a vue depuis 3 ans, c'est quand même exceptionnel.
Mm-hmm.
Les livraisons manufacturières de nos transports alimentaires aussi, c'est des records. Puis les sondages qu'on fait, comment les gens font confiance à
l'État. Il y a juste, au fond, les producteurs de porc qui étaient dépendants de l'étranger qui ont des graves difficultés actuellement. Où est-ce qu'on en est dans cette crise-là des producteurs de porc?
Bien, c'est une filière qui a beaucoup, beaucoup de qualité qui se fait au Québec, on s'entend là-dessus, là. Mais c'est une filière qui, vous l'avez dit, qui dépend beaucoup, beaucoup sur l'exportation. Ouais. Puis depuis un certain nombre de mois, il y a vraiment toute une restructuration qui se fait à l'échelle mondiale. Les grands producteurs, le Danemark, l'Espagne, aux États-Unis, des grands abattoirs fermes, des productions fermes. Fait qu'au Québec, il y a comme une restructuration qui est en cours présentement, mais ça ne vient pas hypothéquer le potentiel puis le futur parce qu'il y a une demande pour nos produits puis il y a une qualité exceptionnelle qu'on fait au Québec, les producteurs de porc. Là. Mais c'est une période, effectivement, c'est une période qui est difficile, là, que la filière traverse. Là.
Je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup, André Lamontagne. Merci pour ce mercredi agricole. André Lamontagne est ministre de l'Agriculture, évidemment.
Merci, Antoine.
Merci, au plaisir.
Bonne journée.
Et c'est ainsi que se termine là-haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Il y a aussi le bouche à oreille. Et je vous dis à demain. Cube Radio.